pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. Il est une fois le mystérieux syndrome de la Havane. Par Frédéric Lavoie, publié le 19 avril 2024 sur le site Les As de l'info. Il est une fois, à notre époque, une mystérieuse maladie qui semble avoir été provoquée par un son. En quelques années, environ 1000 personnes l'auraient contracté à travers le monde. Puisque les premiers cas ont été observés à Cuba, la maladie a pris le nom de la capitale de ce pays. On l'appelle ainsi le syndrome de la Havane. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que presque tous les gens qui sont tombés malades ont un profil similaire. Ce sont en effet, pour la plupart, des diplomates ou des espions travaillant pour les gouvernements du Canada et des États-Unis, ou sinon, des membres de leur famille qui les accompagnaient durant leur mission à l'étranger. Et tous les malades racontent à peu près la même histoire. Un jour, à Cuba ou ailleurs, ils ont entendu un bruit métallique fort, aigu et absolument insupportable. Selon l'un d'eux, c'était comme s'il avait été frappé de plein fouet par une vague ou un bâton de baseball. Après avoir entendu ce bruit, ces gens ont commencé à ressentir différents symptômes, perte d'équilibre, trous de mémoire, difficulté à se concentrer, maux de tête, bourdonnement des oreilles ou encore saignement du nez. Ce bruit semblait avoir cassé quelque chose dans leur tête, quelque chose d'irréparable. Il a fallu du temps avant de faire le lien entre ce bruit et les symptômes. Les personnes atteintes croyaient d'abord être simplement très fatiguées ou avoir attrapé un virus. Elles souffraient en silence, sans savoir que d'autres étaient dans la même situation qu'elles. Quand les médecins et les gouvernements ont réalisé toutes ces coïncidences entre les malades, ils ont commencé à se dire que tout cela était extrêmement suspect. Car pourquoi une maladie ne toucherait que des diplomates et des espions du Canada et des États-Unis? Comment pourrait-elle choisir ses victimes en fonction de leur métier et de leur origine, puis les frapper dans différents endroits de la planète sans contaminer d'autres gens? Quelques hypothèses ont été émises pour essayer de comprendre l'origine de ce syndrome. Peut-être que ces gens avaient été piqués par un moustique transportant un insecticide très toxique. Ou peut-être avait-il été assourdi par le chant d'un grillon très, très bruyant. À moins qu'ils aient été empoisonnés à leur insu. Rapidement, une autre hypothèse a commencé à devenir plus populaire. Et si ces espions et ces diplomates avaient été attaqués par des agents d'un pays ennemi avec une nouvelle arme ultra-secrète capable de causer des dommages terribles au cerveau, simplement en émettant un bruit? Cette idée n'était pas tout à fait farfelue. Par le passé, plusieurs pays avaient tenté de concevoir une telle arme acoustique. La plupart des pays soupçonnés disaient toutefois avoir abandonné ce projet parce qu'il était trop cruel. Mais était-ce vraiment le cas? L'un de ces pays était la Russie. La Russie n'avait pas de bonne relation avec le Canada et les États-Unis. Se pourrait-il qu'elle ait mis au point cette arme et qu'elle ait envoyé des espions à Cuba et ailleurs dans le monde pour l'utiliser contre des diplomates et des espions ennemis? Réponse de la Russie, bien sûr que non. Mais comment la croire? Dans le monde de l'espionnage et des armes secrètes, le mensonge est une arme dont tout le monde se sert pour tromper son ennemi. Les gouvernements du Canada et des États-Unis semblent d'ailleurs aussi cacher des choses. Des journalistes et d'anciens espions assure que le syndrome de la Havane a bien été causé par une arme à décharge électromagnétique développée par la Russie. Mais les gouvernements canadiens et américains affirment que cette arme n'existe pas. Le croient-ils vraiment ou mentent-ils pour déjouer les plans de leur ennemi? En tous les cas, les victimes, elles, aimeraient bien connaître la vérité, car depuis qu'elles ont entendu ce bruit, elles souffrent tous les jours de ce mystérieux syndrome de la Havane. Cette histoire est évidemment vraie. Les premiers cas du syndrome de la Havane ont été découverts chez des diplomates canadiens et américains en 2014 à Cuba. C'est une unité spéciale des services secrets de l'armée russe dont la tâche est d'affaiblir l'Occident, c'est-à-dire des pays comme le Canada et les États-Unis, qui seraient responsables de ces attaques à l'arme acoustique. Kathleen Clark, la star du moment. Par Emery Kepo, publié le 17 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Le 15 avril, Kathleen Clark a été repêchée au premier rang par une équipe de la WNBA, la Ligue nationale de basketball féminin. Cela ne surprend personne, puisque la joueuse américaine de 22 ans a brisé record après record dans sa carrière universitaire. On te présente cette nouvelle icône du basket féminin. Le 7 avril, Kathleen Clark jouait son dernier match universitaire avec l'équipe des Hawkeyes de l'Iowa. C'était la finale du tournoi de sa ligue et tous les yeux étaient rivés sur elle. Imagine, 24 millions de téléspectateurs ont regardé le match. C'est plus que tout autre match de basket, universitaire ou professionnel, féminin ou masculin, depuis 2019. Pour te donner une idée, depuis 2019, seuls les Jeux olympiques et le Super Bowl ont rassemblé plus d'Américains devant leur télévision que le dernier match de Kathleen Clark. Comme à son habitude, Kathleen a joué un très bon match ce soir-là en marquant 30 points. Malheureusement, son équipe s'est inclinée 87-71 contre les Gamecocks de la Caroline du Sud. Mais cette défaite n'allait pas faire pâlir l'étoile de Kathleen, loin de là. Direction la WNBA. Lundi le 15 avril, le repêchage de la WNBA avait lieu. Sans aucune surprise, la joueuse de 22 ans a été repêchée en première position par le Fever d'Indiana. Alors qu'après avoir battu de nombreux records universitaires, Kathleen va-t-elle continuer en WNBA? C'est à suivre. Clark le phénomène. En 5 saisons, avec les Hawkeyes d'Iowa, Kathleen Clark cumule les exploits. En 5 saisons universitaires, Kathleen Clark a marqué 3900 points. Elle est la meilleure marqueuse de toute l'histoire de sa ligue, la NCAA, hommes et femmes confondus. Ce record n'avait pas été battu depuis 54 ans. Cette saison, Kathleen a inscrit 1183 points en 37 matchs. Cela donne une moyenne de 32 points par match. C'est un autre record en NCAA du côté féminin cette fois-ci. Elle a été nommée joueuse de la saison 2023-2024. C'est la deuxième année de suite qu'elle remporte cette distinction. Elle a remporté 3 médailles d'or avec l'équipe junior des États-Unis au niveau international. Clark sur les traces de Curry. La Curry au féminin, c'est comme ça que Kathleen Clark est surnommée. Stephen Curry, c'est un joueur de basket qui a remporté 4 fois le trophée Larry O'Brien, le titre de championnat de la NBA, avec les Warriors. Les gens comparent Clark à Curry parce qu'ils ont un style de jeu similaire. Ils sont tous les deux petits, très adroit au tir à trois pointes et d'excellent passeur. D'ailleurs, cette saison, Caitlin Clark a battu le record du nombre de trois points inscrits en une saison dans sa ligue universitaire. Et devine quel joueur détenait ce record avant elle? Eh oui, Stephen Curry. Durant la saison 2007-2008, Curry avait marqué 162 trois points. Cette année, Caitlin Clark en a fait 193. Le début d'une grande carrière? Après son parcours universitaire, Caitlin Clark commence sa vraie carrière en WNBA. Elle fera sûrement aussi partie des athlètes qui iront représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Paris cet été. Caitlin est sur la bonne voie pour devenir l'une des légendes de ce sport. Et toi, connaissais-tu Caitlin Clark? Joues-tu au basket? Le fleuve Saint-Laurent, plus pollué qu'on pense. Par Charlotte Préfontaine, publié le 16 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Mégots de cigarettes, bouteilles en plastique, canettes en aluminium. Ce sont les déchets les plus communs retrouvés sur les rives du Saint-Laurent dans les 5 dernières années. C'est ce que nous dévoile le rapport de l'Organisation Bleue, un organisme à but non lucratif au BNL québécois qui œuvre à protéger notre précieuse eau. J'ai parlé avec Laurence Martel, une géographe qui travaille pour l'Organisation Bleue. Je lui ai posé plein de questions pour t'aider à comprendre tout ce qui se passe dans notre fleuve. Depuis 2019, l'Organisation Bleue et ses 2500 bénévoles ont nettoyé 91 sites et ramassé 20 tonnes de déchets. 20 tonnes, c'est 20 000 kilos, soit le poids de deux petits rorquals. En quoi c'est un problème que l'eau soit polluée? Les microplastiques présents dans l'eau peuvent chambouler l'entièreté de la chaîne alimentaire, puisque les planctons les mangent, les poissons mangent les planctons, les baleines mangent les poissons, etc. L'humain aussi peut être affecté parce qu'on peut manger du poisson avec des microplastiques sans jamais le savoir. On va également retrouver ces particules de plastique dans notre eau potable, dans les glaciers de l'Antarctique et même dans l'air. Notre système immunitaire peut être affecté par ces microplastiques-là. Quels sont les endroits où vous avez retrouvé le plus de déchets? On a remarqué qu'il y avait plus de déchets près des zones urbaines, donc les endroits où il y avait de grandes villes. On a aussi remarqué que les courants marins transportaient les déchets des grands lacs jusqu'à l'océan Atlantique et même jusqu'au continent de plastique. Les berges du golfe Saint-Laurent, jusqu'à l'estuaire, c'est-à-dire les régions de Charlevoix, du Saguenay, l'île d'Anticosti, la Côte-Nord et la Gaspésie, étaient remplies de déchets également. Psst! C'est quoi le continent de plastique? On compte 5 continents de plastique dans les océans. Ces continents se forment par les déchets de plastique qui se retrouvent dans l'eau et qui se font emporter par les courants marins. Les déchets restent emprisonnés dans des tourbillons, créant alors des îles de plastique. Le plus gros se trouve au nord de l'océan Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Sa taille serait d'environ 1,6 million de kilomètres carrés, ce qui est un peu plus grand que la province du Québec. Que faire pour réduire la quantité de déchets dans nos eaux? Chaque geste compte. Ça peut être en achetant une bouteille d'eau réutilisable pour ne plus acheter celle en plastique, ou encore en achetant plus d'aliments en vrac, en amenant ses pots réutilisables à l'épicerie, par exemple. À l'école, on peut aussi encourager des concours de boîtes à lunch zéro déchet tout au long de l'année. Il est aussi possible de participer à des nettoyages de rue. Lorsqu'on marche à l'extérieur, il suffit d'avoir un petit sac poubelle sur soi et de ramasser les déchets qu'on trouve sur notre chemin. Tout ça peut faire une grande différence. Et toi, quels sont les efforts que tu voudrais faire pour réduire ta quantité de déchets? La Reine des Neiges ne peut plus chanter en Tchétchénie. Par Tom Himmler, publié le 20 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Le dirigeant de la Tchétchénie va interdire la musique trop rapide ou trop lente. Résultat, à partir du 1er juin, les Tchétchènes ne pourront plus écouter une bonne partie des chansons populaires ici. Je t'en dis plus. C'est quoi la Tchétchénie? C'est une région de la Russie, comme le Québec est une région du Canada, sauf que la Tchétchénie a déclaré son indépendance. La Russie considère la Tchétchénie comme un pays à part entière, mais la grande majorité des autres pays du monde continue de la considérer comme une région russe. Si cette région fait tant parler, c'est surtout à cause de son leader, le dictateur Ramzan Kadyrov. Au pouvoir depuis 2007, il est notamment connu pour ses hommes armés, les Kadyrovstis. Ceux-ci sont accusés par des ONG de commettre de la torture, des enlèvements et des assassinats. Une nouvelle loi anti-musique. Si je te parle de la Tchétchénie aujourd'hui, c'est que son ministère de la Culture a annoncé une nouvelle loi il y a quelques jours. Cette loi interdit à partir du 1er juin la musique que Kadyrov juge trop rapide ou trop lente. Avec cette loi, le dictateur veut empêcher les Tchétchènes d'écouter trop de chansons occidentales, c'est-à-dire venant d'Europe ou d'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il considère que cette musique est décadente et que c'est une menace pour la culture tchétchène. Pour les artistes et les radios, il ne sera plus possible de jouer en public des chansons qui ne respectent pas la nouvelle loi. Pour l'instant, on ignore ce que pourraient être les punitions pour les artistes ou les radios qui voudraient résister. Ce que l'on peut ou pas écouter. Pour classer la vitesse de la musique, on utilise le nombre de battements par minute, le BPM. Pour calculer un BPM, tu peux taper le rythme dans tes mains. Si tu comptes le nombre de temps pendant une minute, tu obtiens le BPM de ta chanson. Dans la nouvelle loi, les Tchétchènes peuvent seulement écouter des musiques entre 80 et 116 BPM. Une chanson interdite trop rapide? Libérée, délivrée de la Reine des Neiges. 137 BPM. Une chanson interdite trop lente. Bidi bidi bodidi bou de Cendrillon. 67 BPM. Pour continuer à être diffusée en public, les artistes tchétchènes ont jusqu'au 1er juin pour accélérer ou ralentir leurs chansons. Malgré ce petit délai accordé, le nombre de chansons que l'on pourra écouter en Tchétchénie va beaucoup baisser. Le plus incroyable, l'hymne tchétchène, l'équivalent de l'O Canada en Tchétchénie, ne respecte pas les critères. Pourtant, cet hymne a été composé par le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Pour ou contre taxer les plus riches? Par Emeric Epo, publié le 22 avril sur le site Les As de l'Info. Il y a quelques jours, le gouvernement du Canada a présenté son nouveau budget. Celui-ci a pris la décision de taxer davantage les gens fortunés. Ça signifie que les gens qui ont beaucoup d'argent devront en remettre une plus grosse part au gouvernement. Alors on s'est demandé aux As, qu'est-ce que tu en pensais? Les riches devraient-ils payer plus d'impôts? allons découvrir les arguments ensemble. Les arguments pour récolter plus d'argent. Le gouvernement du Canada prévoit que ce changement va lui rapporter 19,3 milliards de dollars sur 5 ans. Cet argent pourra être utilisé pour financer des projets comme des écoles, des hôpitaux ou encore des logements sociaux. Lutter contre les inégalités. Taxer les riches permet de réduire les inégalités au sein de la population. C'est une façon d'avoir une société où il y a moins d'écart de richesse. Il y a même des millionnaires qui sont d'accord. C'est le cas de Claire Trottier que Mélanie a interviewé il y a quelques semaines. Selon Claire, les riches devraient payer plus d'impôts. Rééquilibrer la planète. Dans un rapport sur les inégalités climatiques, des économistes suggèrent de taxer les plus riches et d'utiliser cet argent pour aider les pays en développement. Les écarts de richesse entre les pays plus riches et les pays plus pauvres ont aussi des répercussions sur le réchauffement climatique. En taxant les plus riches, l'argent amassé pourrait aider ces pays à rattraper leur retard et aussi à mieux s'adapter au réchauffement climatique. Les arguments contre. Une mauvaise nouvelle pour l'économie. Que vont faire les riches s'ils doivent donner plus d'argent au gouvernement? Ils vont déménager, c'est clair. C'est un argument qu'on entend très souvent. La crainte, c'est que si ces personnes décident de partir, ils partiront avec leur argent et cela pourrait nuire à l'économie du pays. C'est décourageant. Pourquoi travailler autant, fournir des efforts pour gagner plus d'argent si c'est pour être plus taxé après? On entend aussi souvent ce genre d'argument de la part de personnes qui pensent que les impôts peuvent nuire à l'ambition. Cet argent, je ne l'ai pas volé. Un autre argument des personnes riches, c'est qu'ils ont travaillé fort pour avoir cet argent. Certains sont partis de rien et ont construit leur richesse avec les années. D'autres ont hérité de cette richesse de leur famille, mais dans tous les cas, des gens ont travaillé fort pour gagner cet argent. Certains riches estiment que si les gens veulent gagner plus d'argent, ils n'ont qu'à travailler plus. Taxer les plus riches? En bref, pour. Plus d'argent pour des projets qui profitent à tout le monde, ça permet de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, on peut utiliser cet argent pour lutter contre les changements climatiques. Contre. Les riches vont partir, c'est mauvais pour l'économie du pays. Ça pourrait décourager les gens à travailler davantage et faire plus d'argent. La richesse d'une personne est souvent le fruit de beaucoup de travail personnel, alors pourquoi devrait-elle partager avec les autres? Et toi, que penses-tu de ces arguments? Es-tu pour ou contre taxer davantage les riches? Entrevue. La NASA enquête sur la Terre. Par Marie-Lise Beaudoin, publiée le 18 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Quand je dis NASA, tu penses à l'espace, non? Moi, en tout cas, je vois tout de suite les étoiles, la Lune et des astronautes. Alors imagine-toi mon étonnement quand j'ai appris que la NASA était en mission sur notre Terre. Pourquoi faire? J'ai rencontré Karina Poulin, une scientifique québécoise qui travaille sur cette mission. Elle a répondu à toutes mes questions. Ta mission avec la NASA concerne le plancton. Mais c'est quoi le plancton? Le plancton, c'est des petits êtres qui vivent dans l'eau. Le plancton peut être des plantes ou des animaux et il est à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Comme il ne résiste pas au courant, il ne reste jamais au même endroit. Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle au plancton? Même s'ils sont minuscules, ces petits êtres sont très nombreux et jouent un rôle super important pour notre planète. Grâce à la photosynthèse, le plancton produit une grande partie de l'oxygène sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Quand le plancton meurt, le gaz carbonique, un gaz à effet de serre, qu'il a absorbé, reste avec lui et coule au fond de l'eau. Il est ainsi gardé loin de l'atmosphère pendant un moment, ce qui aide à réduire la quantité de gaz carbonique dans l'air. On appelle ça un puits de carbone naturel. En quoi consiste la mission? Certains types de plancton nourrissent les poissons, mais d'autres peuvent être dangereux parce qu'ils sont toxiques. Il est donc important de pouvoir différencier les différents types de plancton pour s'assurer que la pêche et la baignade, par exemple, sont sécuritaires. Et c'est exactement ce que cette mission essaie de faire. On veut différencier les bonnes et les mauvaises variétés de plancton, savoir où elles se trouvent et quand elles se trouvent là. Quel est ton rôle dans cette mission? J'utilise les images que les satellites prennent de la mer pour expliquer aux gens ce que nous faisons. Quelle est ta découverte la plus surprenante? J'ai appris qu'une sorte de plancton a besoin de noirceur la nuit, tout comme les humains. S'il ne dort pas dans un endroit sombre, il aura plus de difficultés à se reposer. Il sera même affecté le jour suivant. Un peu comme quand on est fatigué parce qu'on a mal dormi pendant la nuit. Et toi, préférerais-tu travailler pour la NASA dans l'espace ou sur Terre? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.